Europe Matin.
Fanny Marceau.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, ravi de vous retrouver pour une heure et demie de réveil en douceur et en info. On vous accompagne où que vous soyez en France, même en Outre-mer. Le groupe martiniquais Malavoie joue à Caouvet, le jour se lève, levé dans Cabanan, sortez de vos lits. On est ensemble jusqu'à 6h30 dans l'actualité de ce mercredi 4 mai. Offre d'emploi, cherche candidat désespérément. Les recruteurs en manque de CV, des milliers de postes sont à pourvoir en France, notamment dans le secteur de la restauration. À 5h45, on verra avec l'économiste Marc Touati pourquoi ces offres ne trouvent pas preneur. L'occasion d'analyser le marché de l'emploi en France, percuté par l'inflation, la guerre en Ukraine et les suites de la pandémie. 35 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. Ce week-end, à Vaux-en-Velin, près de Lyon, une mère de famille de 36 ans a été poignardée chez elle alors que ses enfants étaient à la maison. Son époux a été placé en garde à vue. Comment lutter contre les féminicides et les violences conjugales? Le gouvernement en avait fait une priorité lors du quinquennat qui s'achève. Et force est de constater que les solutions proposées n'ont pas fonctionné ou pas assez. On en parle à 6h10 avec Maître Emmanuel Franck, avocate pénaliste à Toulouse, avocate notamment de Cédric Jubilard. Enfin, à 6h20, la partition d'Omblyne. Il était le batteur de Nirvana et se retrouve orphelin quand le leader Kurt Cobain disparaît. Dave Grohl, un exemple de résilience, la renaissance dans le rock avec son groupe Foo Fighters. Dave Grohl, à nouveau victime d'un drame, la disparition fin mars de son batteur Taylor Hawkins. Ce sera la partition d'Omblyne Roche à 6h20. Vous avez l'essentiel du programme. On va d'abord prendre des nouvelles du temps. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Bon, à quoi on s'attend ce mercredi? Hier c'était bizarre, hein, donc aujourd'hui?
Eh ben alors, aujourd'hui ça sera électrique. Ouh. Une journée très électrique, la journée la plus orageuse de la semaine. Non. Les orages sont nombreux. Aujourd'hui, la terre a besoin d'eau. C'est alors, vrai. Vous savez comment ça se passe, un orage, hein. Ça peut tomber fort à un endroit et 10 km plus loin,
il n'y a rien du tout.
Il n'y a plus rien du tout. Ouais. Donc, ça va être très localisé. Aujourd'hui, ça va concerner principalement les reliefs, Massif central, Jura, Vosges, les Alpes. Donc, on a vraiment aujourd'hui une bande humide qui va du sud-ouest jusqu'au nord-est, avec sur les montagnes des orages. Par endroit, ces orages pourront déborder un petit peu en plaine. Et puis surtout, ils seront localement forts, ces orages. Il y aura beaucoup d'électricité et ils seront de temps en temps accompagnés de grêles. Donc vous l'avez compris, du sud-ouest au nord-ouest, c'est agité. Au bord de la Méditerranée, c'est du grand et beau soleil. Là, c'est très calme, hein, sur le pourtour méditerranéen. Et puis dans le nord-ouest, de la Normandie jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, on a un temps plutôt calme, sec, avec quelques passages nuageux au milieu des éclaircies. Les températures ce matin, c'est stationnaire, 4 à 15 degrés du nord-est au sud-ouest et 14 à 25 cet après-midi.
Merci Anissa. Très bon réveil à tous. Vous êtes sur Europe 1. Il est 5h. Le burkini fait polémique. Le maire de Grenoble veut l'autoriser dans les piscines. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, s'insurge et prévient. La ville ne recevra plus un centime de subvention si le burkini est permis. Les négociations au forceps entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, toujours pas d'accord. En revanche, les communistes rejoignent l'Union Populaire pour les législatives. Et puis, Top Gun, de retour dans les salles, film, événement européen, rencontre dans ce journal avec nos Tom Cruise français en immersion sur le porte-avions Charles de Gaulle.
Europe Matin,
Fanny Marceau.
Et le premier journal du jour, c'est avec Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. Et tout d'abord, cette question au cœur de la polémique en ce moment. Êtes-vous pour ou contre le burkini dans les piscines municipales? La ville de Grenoble a choisi son camp et veut l'autoriser. Passe d'armes avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui menace de couper toutes les subventions. Mais pas de quoi ébranler Éric Piolle, le maire de Grenoble. L'idée sera bientôt soumise en conseil municipal. Jean-Luc Boujon.
Le nouveau règlement des piscines grenobloises sera présenté le 16 mai prochain au Conseil municipal. Un texte qui ne mentionne pas spécifiquement le mot burkini, mais son article 10 l'autorise de fait en supprimant toute notion d'interdiction des maillots de bain d'une certaine longueur. Pour le maire de Grenoble, Éric Piolle, le service public doit être ouvert à tous.
C'est juste un progrès social dans l'accessibilité du service public. Chacun peut venir à la piscine habillé comme il le souhaite, dans la mesure où il respecte l'hygiène et la sécurité. Nous sommes profondément universalistes et donc nous voulons cette égalité face au service public, plutôt qu'un règlement qui réglemente notamment la tenue des femmes, comme souvent dans l'histoire. Vous pourrez vous baigner avec un maillot couvrant si vous voulez protéger du soleil, ou avec un maillot couvrant pour des convictions religieuses, cela ne nous regarde pas. Du moment que vous respectez les règles d'hygiène et de sécurité, la piscine grenobloise vous est ouverte.
Mais cette mesure est loin de faire l'unanimité, y compris à gauche. Cécile Sénatiempo préside le groupe d'opposition socialiste et apparentée au conseil municipal.
C'est un mauvais message qu'on envoie à ces millions de femmes qui se battent pour pouvoir s'habiller comme elles veulent, pour ne pas être prises par le patriarcat de certaines religions. En fait, on ne veut pas donner crédit à ça.
Le conseil municipal du 16 mai promet donc d'être houleux pour enfoncer le clou. Éric Piolle met en avant l'exemple de Rennes en Bretagne où le burkini est autorisé depuis 2018 et ça se passe très bien, affirme-t-il. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
La politique, les législatives, Jean-Luc Mélenchon réussira-t-il à rassembler à gauche? L'Union populaire se renforce, les communistes rejoignent les insoumis et les verts. Il manque encore une signature ce matin, Alban, celle des socialistes.
Et c'est pourquoi les négociations ont une fois encore continué cette nuit, puisqu'il reste des points de blocage, comme le dit Manuel Bompard, le négociateur de la France insoumise. Alexis de La Fontaine, vous suivez ces négociations à gauche pour Europe 1. Où en est-on ce matin?
Oui, selon nos informations, un accord sur le programme a été trouvé, mais maintenant les négociations se portent sur la répartition des sièges et on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi long, affirme Manon Aubry, négociatrice insoumise. Car les socialistes demandent 70 sièges alors que la France insoumise en offre une cinquantaine. Et tous les regards sont portés vers le Nord, Paris et l'Occitanie, les fiefs de Martine Aubry, Anne Hidalgo et Carole Delga, car Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, doit ensuite faire validé l'accord par le bureau national du parti. Et sans l'appui de ces trois fédérations, c'est presque impossible d'obtenir une majorité, confie un socialiste, et alors toutes les avancées seraient donc réduites à néant. Mais les deux camps se veulent optimistes, un compromis sera annoncé dans la matinée, assure un député insoumis.
Oui, car la date butoir est fixée à aujourd'hui. Manuel Bompard, négociateur LFI, a d'ores et déjà prévenu. Les négociations ne continueront pas ce mercredi. On fera d'ailleurs le point tout à l'heure avec l'ancien premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Il est l'invité ce matin à 8h13 de Sonia Mabrouk.
À 5h04 sur Europe 1, assaut final lancé sur la Syrie Azovstal à Marioupol en Ukraine.
Dernière poche de résistance de la ville portuaire. Alors, pour la première fois depuis un mois, Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine hier, échange de plus de 2 heures pendant lequel le président français, chef de l'Europe, a appelé son homologue russe à permettre la poursuite des évacuations.
Dialogue de sourds puisque Vladimir Poutine exige que l'Occident arrête de fournir des armes à l'Ukraine.
Et c'est non, car le Royaume-Uni augmente son aide militaire, 355 millions d'euros supplémentaires. Annonce de Boris Johnson, le premier ministre britannique, hier lors d'une intervention par visioconférence devant les parlementaires ukrainiens. Une première prise de parole d'un dirigeant occidental depuis le début de la guerre.
Ukraine will win.
L'Ukraine vaincra.
Ukraine will be free.
L'Ukraine sera libre. Vos paysans ont capturé des tanks russes avec leurs tracteurs. Vos retraités se sont confrontés aux soldats russes et leur ont demandé de dégager. Et bien que vos soldats ont toujours été en plus petit nombre, à 1 contre 3, vous avez fait exploser le mythe de l'invincible Poutine.
Of Putin's invincibility. This is Ukraine's.
L'Ukraine vit son heure de gloire.
That will be remembered and recounted.
Et les générations à venir le garderont en mémoire.
Your children and your
grandchildren. Vos enfants et vos petits-enfants diront que l'Ukraine a appris au monde que la force brutale d'un aggresseur ne vaut rien contre la force morale d'un peuple déterminé à être libre.
Boris Johnson, le Premier ministre britannique, devant les parlementaires ukrainiens hier.
L'un des objectifs de l'Europe, d'ailleurs, depuis le début de la guerre en Ukraine, couper le robinet du gaz russe, mais encore faut-il pouvoir le remplacer.
Bien sûr, car il représente 40% de notre consommation en Europe. Alors il faut trouver des alternatives pour pouvoir s'en passer. L'une d'elles, c'est le GNL, le gaz naturel liquéfié. Le français Engie vient de signer un gros contrat avec les États-Unis pour se fournir à partir de 2026 et pour 15 ans. Problème, et il est majeur, Louis Salé, c'est son coût environnemental qu'on peut qualifier de faramineux.
Oui, l'extraction et la production du gaz naturel liquéfié émet deux fois plus de CO2 que le gaz russe, qui lui est acheminé par gazoduc, parce que le processus pour rendre liquide ce gaz américain est très énergivore, explique Thomas Pellerin-Carlin, il est spécialiste des politiques européennes en énergie et climat.
La température qu'il faut atteindre pour le gaz naturel liquéfié, c'est moins 160 degrés Celsius. Donc il faut consommer énormément d'énergie. Le deuxième point, c'est que le gaz naturel liquéfié a tendance à s'enfuir. Ses fuites, c'est du méthane, un gaz extrêmement important. Il va réchauffer l'atmosphère extrêmement rapidement. Il accélère le réchauffement climatique.
Ce gaz est majoritairement issu du gaz de schiste obtenu par fracturation de roches, une méthode polluante.
C'est une technologie en fait qui va créer beaucoup de micro-fissures partout. Il va y avoir beaucoup plus de fuites de méthane qu'avec les méthodes conventionnelles d'exploitation du gaz. Beaucoup de méthane en fait va remonter à la surface de la Terre, ne va pas réussir à être capté par l'entreprise, va s'échapper dans l'atmosphère et du coup réchauffer le climat.
L'Europe a imposé des conditions pour que les Américains s'engagent à réduire leurs fuites, mais les effets ne seront visibles que sur le long terme.
Merci Louise Salé.
Et les ONG montent au créneau à l'image des Amis de la Terre France qui dénoncent un contrat toxique et accusent Engie et le gouvernement français d'incohérence.
Fanny, je vais vous faire écouter une musique.
Oui.
Vous allez me dire à quoi elle vous fait penser. Vous aussi, hein, derrière votre radio, vous pouvez participer.
Allez.
Facile.
Mais oui, Top Gun, évidemment, je traîne un peu pour le plaisir de l'écouter. Top Gun, of course.
Avec un Tom Cruise qui campe le rôle du lieutenant Maverick. On a tous les scènes en tête. Hein. Pilote tête brûlée, blouson aviateur, lunettes de soleil, avion rafale, soleil couchant. C'était en 1986, déjà eh bien presque 36 ans, jour pour jour après la sortie du film. La suite, Top Gun Maverick arrive au cinéma dans 3 semaines.
Et évidemment, Europe 1 est partenaire.
Un film événement. Alors nous sommes allés à la rencontre de nos Top Gun tricolores. Les pilotes de la Marine nationale sur le porte-avions Charles de Gaulle au large de Toulon. Immersion avec Océane Théard.
Le Charles de Gaulle tremble. Sur le pont, l'odeur entêtante du kérosène emplit l'air. Puis un avion rafale s'envole, 11 tonnes de métal qui s'éloignent au-dessus de la Méditerranée. Aux commandes, Johan, un regard bleu perçant derrière sa visière. 28 ans seulement, pourtant le jeune pilote de Rafale Marine garde un souvenir indélébile de la première scène de Top Gun.
C'est cette fameuse musique avec cet énorme coucher de soleil. Il voit tout le monde travailler sur le porte-avions. Et bien évidemment, ça a un caractère mythique.
Top Gun, c'est aussi bien sûr Maverick, l'impétueux pilote joué par Tom Cruise, sourit le capitaine Cyril. Derrière une immense baie vitrée, il veille au déplacement des Rafales Marines sur le pont.
Moi, je me suis dit, pourquoi je ne serais pas à la place de Tom Cruise ? Alors, bien sûr, au-delà du film, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement, mais l'aspect métier de rêve, il est quand même bien là.
Zéro là-bas.
Je suis le capitaine de frégate Vincent, je suis à la tête de tout ce qui vole à bord du porte-avions, avions comme hélicoptères. Top Gun est souvent une référence pour les pilotes de chasse dans la marine avec de très bons moments, beaucoup d'adrénaline et on attend avec impatience la sortie du nouvel opus.
Et plus que 3 semaines à attendre pour l'équipage avant de reprendre les airs sur grand écran 36 ans après leur premier frisson.
Top Gun Maverick, film événement européen. Le film sera présenté pour la première mondiale aujourd'hui à San Diego aux États-Unis, en présence évidemment de Tom Cruise.
Évidemment, merci beaucoup Alban Le Prince pour ce premier journal. Place aux courses à 5h10 sur Europe 1, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Fanny, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et mon pari gagnant sera le 203 Goeva. À peine âgée de 2 ans, cette pouliche n'a pas raté ses premiers pas en compétition le 2 avril à Saint-Cloud en s'imposant de bout en bout sans aucune émotion et la facilité avec laquelle elle a su dominer ses adversaires me permet de vous affirmer qu'elle devrait pouvoir sans aucune difficulté conserver son invincibilité. Alors notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 3, Goeva.
Merci Thierry Léger, vous revenez avec vos pronostics du Quintet dans une demi-heure et dans un instant, le pressing ne bougeait pas.
Europe 1.
Fanny Marceau.
5h11, l'heure de votre pressing. Johan Tritz nous a rejoint. Bonjour Johan.
Bonjour Fanny.
On commence avec les unes de vos journaux. Ouest France se penche ce matin sur le 6e train de sanctions que l'Union européenne devrait décider contre Moscou. Sanctions sur le pétrole russe avec un possible embargo total. Alors comment ? Très progressivement, explique le journal. Et pour le gaz, me direz-vous ? Eh bien, il y a l'option du gaz naturel liquéfié américain. C'est la une de La Croix. Le groupe français Engie vient de signer un gros contrat sur 15 ans avec un producteur américain. Mais la la facture sera lourde. Faire venir ce gaz de schiste made in USA sera bien plus énergivore que les gazos du Crus. La une de l'Humanité, toute rouge ce matin, et ce titre, comme un air de Front Populaire. L'accord politique entre insoumis, communistes et écologistes signé hier en vue des législatives est historique. Manque une seule signature, celle des socialistes. Les négociations se sont poursuivies jusqu'au bout de la nuit. Voilà pour les unes. Johan, quel article a retenu votre attention ce matin ?
Direction les États-Unis, Fanny, où se déroule une histoire des plus rocambolesques. C'est le Wall Street Journal qui la relate. À Washington se trouve le Kenilworth Park and Aquatic, un parc de 280 hectares où se mêlent promeneurs et animaux. Il y a aussi des cours d'eau qui passent à l'intérieur et notamment la rivière Anacostia. Mais aujourd'hui, plus personne n'ose approcher de cet endroit du parc. Pourquoi, Fanny ? Vous allez me le dire.
Ben, j'ai peur là du coup.
Il se passe des choses sombres, oui, on entend avec la petite musique. Eh bien, on n'est pas trop loin, car depuis des semaines, un agresseur bien particulier sème la panique dans cette partie de Kenilworth. Il s'agit d'une dinde. Eh oui, vous avez bien entendu, c'est bien cet animal habituellement inoffensif qui fait peur à tout le monde. Il s'agit d'un seul animal qui, depuis des semaines, s'en prend aux joggeurs et aux cyclistes. Une douzaine de promeneurs a été attaquée et des personnes ont même terminé leur balade à l'hôpital pour des besoins médicaux urgents, pour se faire administrer un vaccin contre le tétanos. Oui, vraiment, c'est une vraie histoire. On connaît d'ailleurs les informations, quelques informations sur l'agresseur. Il est âgé de 6 ans, mesure 1 mètre de haut et peut courir à 15 km/h. L'arme du crime, son bec évidemment. Il assène des coups à tout passant s'approchant de lui, mais personne ne sait vraiment pourquoi il est si remonté, même si les médias locaux informent que la période de reproduction qui dure de mars à mai pourrait être une première piste d'explication. Avec autant de crimes, les autorités de la ville ont décidé de réagir.
Ben oui.
Déjà en installant des panneaux informant du danger, on peut y lire « Dinde sauvage indigène agressive sur le sentier de la rivière Anacostia. Ne vous approchez pas de la dinde et ne vous arrêtez pas sur le sentier. » 6 agents municipaux ont été dépêchés sur place pour capturer l'animal et la relâcher dans un endroit moins fréquenté. Il n'est pas question de la tuer car c'est une espèce qui a failli disparaître il y a un siècle. Problème, c'est que la dinde est toujours introuvable et parvient à éviter tous les pièges tendus. Le Wall Street Journal raconte une scène digne du film « Arrêtez-moi si tu peux ». Un jour, la dinde poursuivie toute la journée est enfin portée. Elle est encerclée sur un pont par des agents. Ça y est, on pense enfin la tenir. Mais rebondissement, elle saute dans la rivière et échappe encore aux malheureux agents. Et oui, la dinde terroriste, c'est comme ça qu'on l'appelle aux États-Unis, est toujours en cavale. Attention aux personnes qui vont dans ce parc, le Kenilworth Park and Aquatic, je le rappelle, car la bête rôde toujours.
C'est terrifiant et hilarant en même temps. En même temps, si la période de reproduction s'arrête bientôt, il y a de l'espoir. On espère qu'elle va un petit peu se calmer et s'apaiser. Merci beaucoup, Johan, pour ce grand moment d'information. Je vais conclure ce pressing avec quelque chose de bien moins fun. Des bouteilles qu'on achète sans trop se poser de questions, hein, en se disant que quand même que ça se recycle et que donc finalement, c'est peut-être la plus écolo des formules, oubliant d'ailleurs au passage qu'il faut beaucoup de gaz pour chauffer le four qui les fabrique. Bref, les bouteilles en verre, celles qui renferment le vin, par exemple, se font de plus en plus rares. Conséquence du Covid et de la guerre en Ukraine, le vin peine à trouver son contenant. Les vignerons, surtout les plus petits domaines qui n'ont pas pu stocker des milliers de bouteilles d'avance, se retrouvent donc coincés. Comment vendre un élixir qu'on ne peut embouteiller ? Leurs fournisseurs leur demandent d'attendre à 1 à 3 mois en moyenne et les prix font le yo-yo. Le marché est d'autant plus tendu d'ailleurs que certains forgerons ont abandonné leur four à cause de la pandémie. Et puis même s'ils les rallumaient, il leur faudrait 2 mois pour être prêts. Alors on fait quoi ? On met le vin dans une bouteille en plastique ? Après tout, il y en a déjà, hein, des piquettes dans des bouteilles molles.
Oui, des piquettes, ouais.
Mais c'est pas vraiment l'usage. Or, sans bouteilles de qualité, il va falloir repenser tout ça. Et tant qu'à faire, bah, repenser aussi les étiquettes, les capsules en aluminium, la cire à la paraffine, les cartons d'emballage, les palettes. C'est pas très écolo, tout ça. Peut-être faudrait-il vendre le vin en vrac, pourquoi pas, ou bien comme les graines et autres céréales dans les boutiques bio, vous savez, avec des petits distributeurs.
Oui, bien sûr, ouais. Je vois très bien.
Et pourquoi pas des bouteilles sans étiquette, marquées au feutre avec un simple bouchon recyclé. C'est la réflexion que mène Marie-Ève Lacasse ce matin. Elle est journaliste à Libération et elle signe l'article « Pénurie de verre, les vignerons en quête de flacons ». D'ailleurs, Johan, lundi sur Europe 1, vous vous en souvenez sans doute, mais Lionel Potron, notre invité apiculteur, nous le signalait. Le marché du miel manque aussi de contenants. La même réflexion sur le verre va peut-être devoir se poser à beaucoup de producteurs cette année. Comment faire sans le verre ?
On va mettre de côté du verre.
Ou alors on revient à la simple consigne, comme on faisait avant, jusque dans les années 70. Merci beaucoup, Johan.
Merci.
Europe Matin.
Fanny Marceau.
5h16 sur Europe 1. Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi, c'est le journal permanent Alban Le Prince.
Et cette première depuis un mois, un appel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Hier, les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plus de 2 heures. Le président français, aussi chef de l'Europe, a appelé son homologue russe à permettre la poursuite des évacuations de la Syrie Azovstal à Mariupol en Ukraine. Dans la ville portuaire d'ailleurs, la Russie a lancé hier et pour la première fois l'assaut final contre le complexe. Dernière poche de résistance dans le port ukrainien. Retour en France pour les législatives. L'Union populaire est désormais composée des Insoumis, des Verts, ça on le savait, mais aussi des communistes. Le PCF l'a annoncé hier en fin de journée, reste à convaincre le PS. Les négociations ont continué cette nuit, elles ne reprendront pas aujourd'hui. Comparution immédiate ce mercredi pour la femme accusée d'avoir agressé un pompier en marge des manifestations du 1er mai à Paris. Elle est poursuivie pour violence sur personne chargée de mission de service public, outrage, rébellion et participation à un groupement en vue de commettre des violences.
Europe 1.
Initiative en France, votre rendez-vous bonnes idées du matin avec cette question aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu vas faire de tous ces jouets ? Est-ce qu'on les donne à Sunnyside ?
Maman, personne ne voudra de ces vieux jouets.
Très bien. Tu as jusqu'à vendredi et tout ce qui ne sera pas emballé ou rangé au grenier ira à la poubelle.
C'est comme tu voudras, maman.
Extrait de Toy Story 3. Le grenier ou la poubelle, triste destin pour ces jouets qui ont fait les belles heures de nos enfants et qui peuvent avoir une deuxième vie avec notamment Abracadabric. Bonjour Alexandra Delprat.
Bonjour à tous.
Vous êtes la fondatrice de cette association recycleuse de jouets, Abracadabric. Une fois passées entre vos mains, les poupées, nounours et autres petits amis des chambres d'enfants qu'on s'apprêtait à jeter à la poubelle peuvent revenir sur le marché. Enfin, souvent quand même, nos bambins en perdent la moitié et en abîment l'autre. Alors, comment vous sauvez les jouets ?
Alors, on a décidé d'essayer effectivement d'en sauver un maximum avec un parti pris qui est de réemballer en fait les jouets, ce qui va permettre d'en sauver beaucoup plus parce que on a tendance à jeter ou en tout cas on a des difficultés à revendre sur le marché de l'occasion des jouets, par exemple des jeux de société dont la boîte est abîmée.
C'est vrai.
Donc voilà, donc il y a vraiment une idée de refaire un emballage permet de sauver plus de jouets. Puis l'autre parti pris, vous l'avez tout à fait bien dit, c'est qu'il y a certains jouets qu'on va mettre à la poubelle parce que il manque une pièce, parce que voilà, il y a une partie du jeu qui ne fonctionne pas, ou alors il est incomplet, voilà, il reste 3 cubes, un personnage. On va pas pouvoir faire grand chose avec ce que j'appelle les petits jouets un peu esselés. Donc nous, on va collecter tout ça. Et puis, on va stocker des pièces détachées, ce qui va nous permettre à la fois de compléter les jeux incomplets, de recréer des univers en mettant un cube par-ci, un personnage par-là, un bout de maison qui, au départ, n'avait rien à voir les uns avec les autres. Mais on va essayer de refaire des ensembles un peu cohérents, jolis, parce que ça, on en reparlera peut-être après, mais le joli et esthétique, c'est très, très important pour nous, leur donner une seconde chance. Donc, à la fois, l'emballage, le fait de stocker des pièces détachées, des petites pièces esselées, tout ça va nous permettre d'en sauver un maximum. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire.
On parle bien de dons, hein, pas de rachat. C'est-à-dire que ce sont des jouets qu'on est prêt à mettre à la poubelle et qu'on vous apporte.
Exactement. Alors ça, c'est très important dans notre modèle. C'est effectivement, ça arrive chez Abracadabric, ou alors sinon, ça partait à la poubelle. Ce que font en général les gens, c'est qu'ils nous donnent. Ils ont essayé de vendre sur les plateformes en ligne, les vide-greniers, les bourses aux jouets, ce qui sont aussi d'excellents systèmes pour faire circuler en fait ces objets. Les recycleries, les ressourceries, etc. Et puis, une fois qu'ils ont vendu ce qu'ils avaient à vendre, il leur reste toujours un petit carton sur les bras où, justement, ces fameuses pièces esselées, ces fameux jeux incomplets. Et dans ce cas-là, ils nous les proposent en don.
Et comment on vous les amène ?
Il y a plusieurs solutions. Alors, effectivement, c'est les gens qui nous amènent directement à l'atelier. Donc nous, on est soutien en région lyonnaise. Après, il y a toujours des moyens par des copains qui passent par là, de transporter quelques cartons. Et après, on travaille aussi en termes de dons avec la recyclerie, en fait, qui est basée à Trévoux, où ils avaient un peu donc on collabore avec eux, ils avaient un petit peu le même problème, c'est-à-dire que dans ce que pouvaient apporter les gens dans cette recyclerie, il y avait des boîtes abîmées, des jeux incomplets. Ce sont pour eux aussi des objets qu'ils ne peuvent pas valoriser dans leur magasin solidaire et qu'ils remettaient en déchets avec beaucoup de frustration. Et du coup, on a collaboré avec eux maintenant depuis 2 ans On est la troisième chance quelque part. C'est-à-dire qu'ils nous mettent de côté dans des containers ben, tous ces jeux qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes valoriser. Et nous, on vient un peu faire leur poubelle quelque part. Je dis ça, c'est un peu provocateur, mais j'aime bien l'idée en fait. Justement, ce qu'on s'apprête à mettre à la poubelle n'est pas forcément... Enfin, on peut en faire quelque chose. Donc, on récupère aussi énormément, à peu près 30 kilos par semaine, hein, c'est beaucoup, de jouets qui viennent de cette recyclerie et que eux ne pouvaient pas valoriser, mais nous, on va pouvoir le faire. Après, ce qu'on n'a pas encore pu mettre en place, mais on y réfléchit, c'est de pouvoir collecter d'un point de vue national. Donc ça, c'est un peu compliqué parce que pour le coup, l'empreinte carbone, bah voilà, on peut presque faire pire en essayant de vouloir faire mieux. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de réseaux qui se développent autour de cette idée de jouer revalorisé. Et donc, il y a toujours une solution, voilà, quand il y a quelqu'un qui est à Lille qui souhaite donner ses jouets, en général, on essaye de les orienter vers les structures qui sont plus locales, en fait.
Et alors, voilà. C'est écolo, mine de rien. Ça revient moins cher aussi, j'imagine, d'acheter du recyclé plutôt que du neuf pour les parents.
Absolument. Alors, ça a plein de vertus. Ça a une vertu au départ. C'était même l'idée de départ, c'était ça. C'était d'essayer de lutter contre ce gaspillage sur les jouets. Il est assez phénoménal. Hein. On en jette 40 millions par an. Et puis, un jouet, c'est utilisé à peu près en moyenne pour 70% des jeux, c'est utilisé pendant 8 mois. C'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup.
Et en plus, c'est un objet qui se recycle, en fait, dans le sens pur du terme, assez mal, puisque c'est souvent beaucoup de plastique, ouais. Des mélanges de plastique et la filière, en fait, de traitement en déchets n'existe pas ou peu. Et puis, il y a une vertu économique, et ça, j'adore, parce qu'on dit souvent, mais finalement, faire un effort sur l'écologie, ça va coûter plus cher. Et là, ce n'est pas le cas. Ça coûte moins cher pour le consommateur au final, puisqu'ils vont avoir un très joli jouet qui a été contrôlé rigoureusement, qui a été renettoyé, qui a été réemballé très simplement, mais de manière quand même attractive et jolie. Tout ça pour moins cher que le neuf, donc c'est quand même génial. Et puis, il y a une troisième vertu qui est une vertu sociale. Notre métier au sein de l'association, c'est aussi d'accompagner des femmes sur le retour à l'emploi. Et moi, je trouve ça chouette que dans un objet qui, au départ, devait partir à la poubelle, bah, finalement, on arrive à mettre dedans de l'économique, du social, de l'environnemental. C'est chouette. C'est un beau mélange.
C'est une très belle aventure. Est-ce que vous avez parfois des pépites, des jouets un peu old school, des kikis, des choses comme ça, par exemple?
Mais oui, un petit clin d'œil à une petite fille là, qui, justement, a adopté son kiki. La semaine dernière, c'est rigolo que vous citiez ce jeu. Alors oui, effectivement, on a aussi parfois des vraies pépites, des jouets vintage, des jouets de collection. Alors ça, c'est un marché qui est très très particulier. Pour nous, en fait, on les soigne, on les traite exactement de la même façon. Après, c'est vrai qu'on a dans notre petite boutique solidaire un petit corner, un petit coin vintage avec ces petits pépites là. Et alors, en général, soit ça séduit les 30, 40 nerfs, 50 nerfs qui reviennent en enfance, ils disent « Ah, mais ce jeu, je l'avais quand j'étais petit !» Ou bien « J'ai toujours rêvé de l'avoir et j'ai pas pu, je n'ai jamais eu à Noël. » Et du coup, ils se l'offrent quelques années plus tard. Exactement, c'est exactement ça. Et puis après, il y a quelques collectionneurs aussi qui effectivement, vont jeter parfois un œil à nos trouvailles.
Voilà. Il n'est jamais trop tard pour se faire plaisir, jamais trop tard non plus pour sauver les jouets. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Longue vie hein, à votre association Abracadabric. Merci, Alexandra Delprat.
Europe Matin, Fanny Marceau.
Il est 5h28, bon début de matinée sur Europe 1, à suivre le journal de Christophe Lamarre. Et puis, on parle emploi ce matin, des milliers de postes à pourvoir dans la restauration, dans le bâtiment et tant d'autres secteurs qui peinent pourtant à recruter. La crise sanitaire a rebattu les cartes, la guerre en Ukraine va encore changer la donne. On en parle avec l'économiste Marc Touati, président du cabinet ACDéfi dans un instant.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert, toutes les infos sur Murprotec.
Ah oui, d'abord, des nouvelles du temps. La météo, journée plus humide aujourd'hui, Anissa.
Oui, des Pyrénées jusqu'au Grand Est, en passant par le Limousin, l'Auvergne, la Bourgogne et les Alpes. Nous avons des averses tout au long de la matinée qui vont devenir de plus en plus fréquentes au fil des heures. Et on va avoir vraiment beaucoup plus d'averses dans l'après-midi. Et d'ailleurs, c'est cet après-midi que le temps va devenir vraiment, vraiment plus instable sur toute la moitié est du pays avec des orages qui éclatent. Alors d'abord en montagne, ça concerne les Alpes, le Massif central, le Jura, les Vosges. Ces orages pourront localement déborder en plaine et ils seront surtout localement forts et accompagnés de grêle. Alors, tous les reliefs sont concernés sauf les Pyrénées. À l'ouest, ça va effectivement un peu mieux. De la Normandie à la Nouvelle-Aquitaine, on a un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Puis au bord de la Méditerranée, c'est du grand et beau soleil. On a 4 degrés ce matin à Aurillac, 6 à Clermont-Ferrand, 9 à Paris et Saint-Etienne, 11 pour Bordeaux et 14 déjà pour Nice.
Merci Anissa Haddadi. Bon réveil à l'écoute d'Europe 1. On est ravis de vous avoir avec nous. Il est 5h30 et c'est l'heure de votre journal.
Europe 1.
À la une de ce mercredi, c'est un phénomène qui inquiète les autorités judiciaires. Le proxénétisme de cité explose à Paris et dans sa petite couronne. Le nombre d'affaires ne cesse d'augmenter. Plus de la moitié des victimes sont des jeunes filles mineures. Notre dossier dans ce journal. L'armée russe lance l'assaut final sur Mariupol. L'infanterie et les chars sont entrés dans la Syrie d'Azovstal, dernier îlot de résistance de cette cité portuaire stratégique. Et puis en sport, la Ligue des champions de football. Liverpool, premier qualifié pour la finale en attendant la confrontation entre le Real Madrid et Manchester City ce soir. Les Madrilènes comptent plus que jamais sur un exploit de Karim Benzema.
Europe Matin, Fanny Marceau.
Et le journal, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur et tend à se superposer au trafic de stupéfiants dans certains quartiers. Le proxénétisme de cité, il explose et touche de plus en plus de mineurs. La plupart sont des jeunes filles en situation de précarité ou attirées par la quête d'argent facile. Un fléau qui touche notamment Paris et sa région. Le nombre d'affaires a été multiplié pratiquement par 5 depuis 2017. Bonjour Gladys Laffitte.
Bonjour.
Du service police justice d'Europe 1, Gladys, vous avez mené l'enquête auprès de la brigade des mineurs. Quand on parle de proxénétisme de cité, de quoi s'agit-il exactement ?
Alors, il s'agit de jeunes filles, le plus souvent mineures, qui dès 15 ans se prostituent pour des proxénètes hommes, mais aussi femmes, souvent mineures eux aussi. Les adolescentes sont recrutées sur les réseaux sociaux ou par des connaissances. Les jeunes proxénètes s'occupent de tout, logement, transport, contre une partie de leurs gains, quelques centaines d'euros. Christophe Molmy est le chef de la brigade de protection des mineurs.
Ces sortes d'arrangements commerciaux comme ça entre jeunes. C'est une génération qui veut tout de suite acheter des Louboutins, un sac Chanel, qui exhibe des liasses de billets sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on parle avec elles et qu'on leur dit qu'elles sont prostituées, elles disent non, moi je ne suis pas une prostituée, je suis une escorte.
Alors face à l'explosion du phénomène, Christophe Molmy a créé un groupe de 7 enquêteurs spécialisés en septembre dernier. Karine en est la chef, elle a appris à appréhender ses victimes au profil souvent de fugueuses, mais aussi le profil spécifique des proxénètes.
Il y en a beaucoup qui font ça, toujours en parallèle de petits trafics de stupes. C'est beaucoup plus facile que de faire un braquage, c'est beaucoup moins risqué. C'est des affaires où il faut apprendre justement à connaître un petit peu la personnalité de ces jeunes pour pouvoir ensuite arriver en audition à obtenir des informations. Ce n'est pas forcément naturellement des jeunes qui vont dénoncer facilement des faits de proxénétisme.
En effet, il ne s'agit pas de réseaux ultra organisés. L'argent gagné n'est par exemple pas réinvesti dans le circuit. Mais en 7 mois déjà, le groupe de lutte contre le proxénétisme des mineurs a réalisé des interpellations dans au moins 6 gros dossiers.
Gladys Laffitte, vous pourrez entendre dans le journal de 8h le témoignage d'une mère de famille dont la fille mineure s'est prostituée pendant un an.
5h33 sur Europe 1, la campagne pour les législatives. Jean-Luc Mélenchon va-t-il réussir son pari d'unir toute la gauche ? Les discussions traînent en longueur avec les socialistes.
Elles se sont prolongées une partie de la nuit. Aucune information à ce stade, sinon qu'un communiqué sera publié dans la matinée. Une certitude, il n'y aura pas d'autre séance de négociation, assure le représentant de la France Insoumise, Manuel Bompard. Parmi les points de blocage, le nombre de circonscriptions réservées aux socialistes. Accord conclu en revanche avec le Parti communiste, le PCF rejoint officiellement la nouvelle Union populaire écologique et sociale.
À Grenoble, l'autorisation du burkini dans les piscines municipales fait réagir le président de la région Rhône-Alpes.
Le maire Éric Piolle veut permettre aux musulmanes qui le souhaitent de porter ce maillot de bain intégral. Il faut encore attendre le vote du conseil municipal prévu le 16 mai. Le président de la région Rhône-Alpes Auvergne ne l'entend pas de cette oreille. Laurent Wauquiez dénonce une mesure rétrograde et une soumission à l'islamisme sous couvert de lutte contre les discriminations. Il se dit prêt à couper les subventions à la ville.
Pour moi, ce qui compte, c'est pas de faire un chantage à la subvention. Pour moi, ce qui compte, c'est un moment de poser un signal et de dire stop. On va pas détourner le regard. On va pas faire semblant que c'est anecdotique qu'un élu de la République accepte de pactiser avec l'islam politique. Je vais pas continuer à travailler avec le maire de Grenoble comme si de rien n'était, alors qu'on a un élu qui accepte de lui-même un symbole absolu de discrimination homme-femme. On ne demande pas à des hommes de couvrir leur corps sous prétexte que ce seraient des objets de tentation ou que ce seraient des gens impudiques. Au nom de quoi est-ce que dans notre pays, la France, qui a mis tant de temps à conquérir cette égalité entre hommes et femmes, on va aboutir à cette régression dans un service public géré par une mairie d'installer le port du burkini. Mon but, c'est aussi un moment de poser un signal d'alerte et de dire « attention, réveillez-vous ».
Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes, joint au téléphone par Alexandre Chauveau.
En Ukraine, l'armée russe lance l'assaut final contre le dernier îlot de résistance à Marioupol.
Les chars et l'infanterie russe sont entrés à l'intérieur de cet immense complexe sidérurgique d'Azovstal. Première offensive contre ce qui reste de l'armée ukrainienne sur place. 156 civils ont pu quitter la zone, mais il reste encore des habitants. Il faut laisser l'évacuation se poursuivre. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à Vladimir Poutine hier. Conversation téléphonique de plus de 2 heures et un constat, Marion Gauthier. Les deux dirigeants ne parlent pas le même langage.
Deux palais, deux histoires et pas une seule concession. Emmanuel Macron appelle son homologue russe à la responsabilité. Il suffit d'arrêter de fournir des armes à l'Ukraine, répond Vladimir Poutine, qui insiste. L'Occident pourrait aider à stopper ces atrocités. Une déclaration suivie d'un assaut de chars et d'infanterie sur la Syrie Azovstal à Marioupol. L'Élysée avait pourtant exprimé sa préoccupation et réclamé la poursuite des évacuations. La sécurité alimentaire mondiale a évidemment été abordée dans la discussion. Paris l'explique par le blocus russe sur les exportations ukrainiennes. Moscou par les sanctions occidentales. Il faut négocier la paix, écrit encore l'Élysée. Le Kremlin, lui, fustige le manque de sérieux de Kiev. C'était la première fois que les deux dirigeants échangeaient depuis la découverte du massacre de Boutcha. Emmanuel Macron avait alors affirmé que les autorités russes devraient répondre de ces crimes. Aujourd'hui, Vladimir Poutine semble interroger quels crimes. Son communiqué accuse les forces ukrainiennes de les commettre et l'Union européenne de les ignorer.
Marion Gauthier, les Occidentaux déterminés à accentuer leur aide militaire. La Grande-Bretagne va envoyer des radars, des drones et des appareils de vision nocturne, montant total 355 millions d'euros. Le président américain Joe Biden demande de son côté au Congrès d'accélérer le déblocage des 33 milliards de dollars prévus pour l'Ukraine.
5h36, le football, Liverpool qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. On attend de connaître le nom de leur adversaire.
Victoire des Anglais, 3-2 contre Villarreal hier soir. Liverpool disputera une 10e finale de Ligue des Champions. Ce sera contre le Real Madrid ou Manchester City, autre club anglais au passage. Avantage aux Citizens qui l'ont emporté 4-3 à l'aller, mais les Madrilènes ont dans leur rang la superstar Benzema, candidat sérieux au Ballon d'Or, Jean-François Pérez.
Oui, avec des statistiques qui donnent le vertige. Déjà 14 buts marqués en Ligue des Champions, du jamais vu pour un Français dans la compétition. 25 autres dans le championnat espagnol remportés par le Real et dont il est le meilleur buteur. En tout, Benzema est impliqué dans plus de la moitié des réalisations de son équipe. C'est stupéfiant. Et puis, il y a le foot, à proprement parler. Des gestes prodigieux à chaque match. Une attitude de patron à Madrid, comme en équipe de France. Bref, un joueur au sommet de son art, à un âge où certains de ses collègues songent à la retraite. Alors, Benzema, premier ballon d'or français depuis Zidane, il y a 24 ans. Pour le président madrilène Florentino Pérez, la réponse coule de source.
Cela fait des années que Karim joue à ce niveau. Et pourtant, pour différentes raisons, ils n'ont jamais voulu lui donner le ballon d'or. Cette année, je pense que personne n'imagine qu'il ne le gagnera pas.
Avant cette consécration espérée, il faudra se qualifier ce soir face aux artistes de Manchester City. Il sera temps ensuite d'envisager l'avenir et l'éventuel duo de rêve que pourraient constituer à Madrid les deux stars des Bleus, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Toute l'Europe du foot ne parle que de ça.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Manchester City, Real Madrid, enfin Real Madrid, Manchester City
dans le bon sens.
Dans le bon sens, c'est ce soir à 21h.
Et on y sera. Merci beaucoup Christophe Lamar pour le journal Les Courses, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Fanny, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour ce quintet à handicap qui réunira 15 chevaux et non 16 comme initialement prévu. Le numéro 11 ayant déclaré forfait, en pleine possession de ses moyens actuellement, comme le prouve sa 3e place obtenue dans un quintet le 16 mars à Chantilly, puis sa victoire le 5 avril à Saint-Cloud, le président, le numéro 8, sera sans hésitation mon favori. On lui opposera les numéros 2, Alloula, prometteuse 7e du quintet du 10 avril à Longchamp, disputé sur le parcours qui nous intéresse. 4, King Rob, désormais bien placé au poids dans cette catégorie des handicaps. 6, Trobraise, excellent 2e pour sa première tentative à ce niveau le 5 avril sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et 1, Cerido, à nouveau proche de son meilleur niveau après 6 mois d'absence. Et sachez que ces deux courses de rentrée au mois de mars à Chantilly puis à Fontainebleau lui ont vraiment fait le plus grand bien. Enfin, les numéros 16, Vautrin, 3, Passalito et 7, Crew Dragon compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 2, 4, 6, As, 16, 3 et 7.
Merci Thierry, pronostic à retrouver dès maintenant sur Europe 1.fr.
ici à Eugène.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où la machine a remonté le temps d'Europe 1. C'était un 4 mai, comme aujourd'hui. Mais il y a 12 ans, le 4 mai 2010, date importante dans le monde de l'art, un tableau de Picasso, nu au plateau de sculpteur, bat le record de l'œuvre d'art la plus chère vendue aux enchères pour 106 millions de dollars à New York. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Fanny.
Ce matin, vous revenez avec les archives d'Europe 1 sur les ventes aux enchères les plus étonnantes et pour commencer, une archive de 1978.
Oui, sont vendus aux enchères des objets ayant appartenu au chanteur Claude François, qui vient alors de mourir 2 mois plus tôt. Le peignoir qu'il porte en sortant de scène est vendu 1600 francs, acheté par cette dame, fan de Claude François.
Je le suivais partout et j'allais à toutes ses émissions, ses galas, ses télévisions.
Vous l'aviez vu en peignoir ?
Oui, oui, justement, c'est le moment où j'aimais beaucoup à la fin de ces galas, où il se donnait vraiment le plus à fond et que c'était vraiment le mieux.
Vous l'avez payé combien ce peignoir ?
1600. C'est en dehors des prix normaux, si vous voulez. C'est un peu le rêve qui rentre en jeu, puis tous les souvenirs qu'on a.
Le rêve qui entre en jeu, c'est probablement ce que se sont dit aussi ceux qui ont acheté un moment avec des stars. Lors de cette vente en 1981, au profit d'une association, un déjeuner avec Catherine Deneuve, adjugé 2800 francs par exemple, ou d'autres moments uniques, récit de la journaliste d'Europe 1, Annie Gaidoz.
Il y a aussi un dîner avec Serge Gainsbourg, réservé à jeune femme seule, dans un restaurant homme admis sans cravate, adjugé vendu 1500 francs. Il y avait aussi la possibilité de jouer un match avec Yannick Noah, celle de piloter en compagnie de Jean-Louis Trintignant, mais il y eut à vrai dire le plus d'acquéreurs pour Jean-Claude Brialy, pour lequel on proposait une soirée théâtre suivie d'un dîner dans son célèbre restaurant.
Eh bien, quand on pense à des ventes aux enchères exceptionnelles, on pense aussi à des choses qu'on trouve habituellement dans les musées, Laure.
Oui, comme ce squelette de mammouth vendu chez Christie's en 2007, 260 000 euros, un prix remarquable. Comment des fossiles se retrouvent-ils dans une vente aux enchères ? Ils ont parfois été pillés, explique alors le paléontologue Philippe Janvier.
Si vous voulez, ça part du paysan qui trouve des fossiles dans son champ, ça passe à un marchand local qui repasse à un grossiste. Et puis finalement, ça se termine dans une vente aux enchères chez Christie's.
Fossiles achetés par un riche collectionneur de 40 ans. Dans les archives d'Europe 1, j'ai aussi retrouvé cette vente en l'an 2000 d'arbres historiques du château de Versailles, des arbres tombés lors de la tempête de 99. Le jardinier en chef du château, Alain Baraton, ne voulait pas que ces arbres finissent sur un bûcher.
Nous avons donc des ébénistes qui ont acheté ces lots. Nous avons également des stylistes qui ont souhaité absolument associer l'art du textile et le bois parce qu'ils trouvaient que c'était de véritables œuvres d'art. Des particuliers également se sont portés acquéreurs de coupes et de troncs d'arbres. Et c'est vraiment pour nous une surprise et une satisfaction.
La vente avait rapporté 330 000 francs. Chacun des arbres vendus a été identifié par l'estampille royale du domaine.
Merci Laure et à demain pour une nouvelle plongée dans les archives d'Europe 1. Restez avec nous dans un instant. On parle de ces milliers d'emplois qui ne trouvent pas preneur avec l'économiste Marc Touati.
Aujourd'hui sur Europe 1, Christophe Ondelat vous raconte.
C'est une histoire bouleversante que je vous offre aujourd'hui. L'histoire d'un petit Indien de 5 ans qui se perd dans son immense pays, qui est adopté par une famille australienne et qui, 24 ans plus tard, grâce à ses souvenirs et surtout grâce à Google Earth, finit par retrouver sa maman.
Retrouvez la suite de ce récit aujourd'hui à 14h sur Europe 1 dans On de la Traconte et quand vous voulez en podcast.
Fanny Marceau, votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h43, bon réveil à toutes et à tous. C'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, le plein emploi, objectif délicat au lendemain d'une pandémie et en pleine guerre en Ukraine, mais réalisable si on en croit la baisse du chômage et la dynamique du marché du travail. Bonjour Marc Touati.
Bonjour.
Vous êtes économiste, président du cabinet AC Défi. Fin 2021, une enquête de Pôle emploi révélait que les entreprises françaises avaient plus de 3 millions de projets d'embauche pour 2022. Ça, c'était avant la guerre. Est-ce que selon vous, l'estimation est toujours valable aujourd'hui ?
Bien malheureusement non. Il faut savoir que l'emploi est une variable retardée de l'activité. Ça veut dire que les bonnes nouvelles qu'on a eues dernièrement sur le chômage, par exemple en France, correspondent aux 6 derniers mois d'activité qui ont été plutôt favorables parce que, évidemment, en 2021, on a continué le quoi qu'il en coûte, les aides, etc. Donc finalement, on avait une activité qui était bonne, tant mieux. Et donc, avec un décalage de 6 mois, le marché du travail s'améliore. Et malheureusement, entre-temps, vous l'avez dit, il y a eu cette, surtout d'ailleurs avant même la guerre en Ukraine, la flambée de l'inflation qui avait déjà commencé. Cette guerre en Ukraine arrive aujourd'hui et les derniers indicateurs avancés de l'activité montre que malheureusement, on a non seulement un ralentissement, mais surtout une baisse de l'activité. On a une baisse du PIB au premier trimestre en France, on en aura une certainement au deuxième trimestre, donc ça veut dire que la France est en train d'entrer en récession, donc ça veut dire que malheureusement, le marché du travail va forcément dans les 6 prochains mois se détériorer parce qu'il y a moins d'activité économique.
Et puis l'inflation a fait remonter le montant du SMIC ces derniers jours, plus 33 euros. Pour certains patrons, c'est quand même une hausse difficile à assurer. Ça peut être aussi un frein à de nouvelles embauches, ça.
Alors, c'est sûr qu'il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, on a ce décalage entre les prix qui augmentent beaucoup plus que les salaires. Et donc, on a une sorte de rattrapage, donc vous l'avez dit, le SMIC. Et puis, il y a également les autres salaires qui augmentent parce qu'on a quand même encore aujourd'hui pas mal de ce qu'on appelle des pénuries de main-d'œuvre. Ça veut dire que les entreprises ont de l'activité, veulent embaucher, mais il n'y a personne en face. Ça, c'est également une des conséquences du coronavirus, surtout des confinements. C'est-à-dire qu'il y a énormément de salariés qui ont démissionné, notamment dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, du bâtiment également. Et donc, maintenant que le Covid n'est quasiment plus là, du moins on l'espère, ils ne sont pas revenus justement auprès de leurs employeurs, ce qui fait qu'il y a des pénuries. Donc, aujourd'hui, les employeurs sont prêts à augmenter effectivement les salaires pour qu'ils récupèrent justement cette main-d'œuvre manquante. Mais malheureusement, encore une fois, ça c'était, j'ai envie de dire, dans le passé. Parce que là, la situation qu'on a aujourd'hui, qui montre qu'on a un ralentissement économique, c'est que on aura demain moins de besoins d'emploi. Et donc c'est là le drame, c'est que malheureusement, on a vécu un petit peu sur un nuage en 2020-2021. Et voilà, depuis quelques mois, ça y est, la fête se termine. Et donc l'inflation augmente, la Banque Centrale Européenne va devoir arrêter la planche à billets, et surtout les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Ça, c'est très dangereux parce que ça va casser un petit peu le crédit et donc limiter l'activité dans le secteur, notamment du bâtiment. Et donc, c'est ce qui fait que, attention, on risque d'avoir quand même un ralentissement de l'emploi, mais même une baisse de l'emploi dans les prochains mois en France.
Vous avez abordé quelque chose d'important, c'est cette capacité des entreprises à proposer des postes sans avoir personne en face. Je vous propose de réécouter Christelle Grisoni. Lundi midi, elle était dans La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1. C'est la patronne du groupe Bertrand qui détient les chaînes de restaurants comme Léon ou Hippopotamus. Écoutez.
On a 1000 postes à pourvoir actuellement, donc n'hésitez pas à envoyer vos CV.
Pour quel type de poste ?
Tout type de poste, en cuisine, en salle, en encadrement, au service, y compris au siège. Donc on a 1000 CDI ouverts actuellement et 300 postes d'alternants en cours de recrutement.
1000 postes à pourvoir en CDI. Oui. Il y a quelques mois encore, ça aurait été le paradis. Aujourd'hui, ça semble presque une galère.
C'est assez incroyable. Beaucoup d'entreprises à travers la France, justement, ont de quoi, entre guillemets, embaucher, mais il n'y a personne en face. Alors, là, il y a deux problèmes. Il y a un problème structurel du marché du travail français. On a toujours un décalage entre ce que veulent les entreprises et puis ce qu'offrent les formations, les écoles, les universités au sens large. Donc, c'est ce qui fait qu'on a toujours structurellement, malheureusement, des pénuries de main-d'œuvre. Avant même le coronavirus, on avait chaque année à peu près entre 200 et 300 000 offre d'emploi non satisfaite. Donc c'était déjà une situation structurelle de l'économie française, du marché du travail français, d'une mauvaise formation finalement et d'une mauvaise adéquation entre l'offre et la demande de travail. Et puis est arrivé effectivement ce coronavirus qui a aggravé la situation. Alors c'est mondial, même aux États-Unis, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 millions de personnes qui avaient quitté le marché du travail. Donc on ne va pas les retrouver du jour au lendemain. Donc c'est ça qui est assez délicat. Et puis après il y a un autre problème, ça c'est plus franco-français, qu'on appelle effectivement les minima sociaux et les aides, qui fait que entre travailler et ne pas travailler, l'écart de revenus, si on intègre évidemment toutes les aides lorsqu'on ne travaille pas, fait que finalement c'est pas énorme. Donc là aussi, le coronavirus a généré un effet psychologique. On se dit, finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? On peut rester là, on peut aller à la campagne, on peut moins se fatiguer, entre guillemets. Ça, c'est très dangereux. C'est presque philosophique, psychologique, j'ai envie de dire. Et donc, ça va prendre du temps, évidemment, à inverser la tendance. Et malheureusement, ce qui est fou, c'est que si les entreprises, justement, ne peuvent pas trouver preneur en termes d'embauche, elles vont devoir ralentir leur activité. Et si elles ralentissent leur activité, il y aura moins de croissance, donc il y aura moins d'emplois.
Vous avez parlé de formation. On se souvient, il y a quelques mois, Emmanuel Macron avait lancé un grand projet pour 2030, réindustrialiser la France. Ça veut dire des emplois à créer d'ici 2030. 2030, c'est demain. Hein, et des salariés à former. Est-ce qu'on sera prêt? Est-ce que finalement, là, on aura réussi à mettre en adéquation les besoins et les formations?
C'est ça le problème, si vous voulez. C'est que la réindustrialisation de la France, ça fait des années qu'on en parle. Tout le problème aujourd'hui est là. Et c'est vrai qu'on a, malheureusement, on a un petit peu abîmé l'image des emplois industriels, l'image des emplois de l'artisanat. Donc, ça prend du temps à inverser la tendance. C'est là tout l'enjeu des prochaines décennies.
Merci beaucoup, Marc Touati, pour cet éclairage ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste, président du cabinet AC Défi. Bonne journée à vous. Merci encore.
Merci vous de même. À bientôt.
Europe Matin.
Fanny Marceau.
5h50, vous êtes bien sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
Vive polémique autour du burkini. La ville de Grenoble pourrait l'autoriser le 16 mai à l'occasion d'un conseil municipal dans ses piscines. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes répond et menace de couper les subventions. Pas un centime ne financera votre soumission à l'islamisme, déclare Laurent Wauquiez. Jean-Luc Mélenchon arrivera-t-il à rassembler la gauche derrière lui pour les législatives? Après les Verts, les communistes viennent de rejoindre l'Union Populaire. Toujours pas d'accord pour le moment, en revanche avec les socialistes. Les négociations ne reprendront pas aujourd'hui. Pour les législatives, justement, Reconquête, le parti d'Éric Zemmour présentera 550 candidats, 271 femmes, 279 hommes. Le camp de l'ex-candidat à la présidentielle qui regrette que le Rassemblement National et les Républicains n'aient pas répondu favorablement à sa main tendue.
Bon début de matinée sur Europe 1, mercredi, jour de sortie dans les salles obscures, mais pour voir quoi? La chronique cinéma, bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
L'événement cette semaine, Laurie, c'est la sortie du nouveau Marvel.
Oui, ça s'appelle Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Après une apparition dans Spider-Man No Way Home en décembre dernier, Benedict Cumberbatch a le droit à son deuxième film solo dans Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Comme pour Spider-Man, ce nouveau Marvel est très très attendu par les fans, évidemment, et il promet d'être un énorme succès au box-office mondial. Alors, le pitch, hein, même si c'est toujours assez compliqué à raconter, le docteur Stephen Strange voyage dans l'inconnu et l'espace-temps pour affronter un nouvel antagoniste. Il va repousser les limites du multiverse pour veiller à la stabilité de l'univers. Rien que ça.
Vous avez ouvert le portail qui relie les univers. Et nous ignorons quels êtres ou quelles choses vont le franchir.
Je suis navré, Steven.
Ta profanation de la réalité ne restera pas impunie. Les choses viennent de t'échapper.
Strange ! Je vous préviens, ça part dans tous les sens. C'est une suite assez sombre et même plutôt terrifiante à certains moments. En tout cas, comme d'habitude chez Marvel, les effets spéciaux sont monstrueux et de nombreux célèbres personnages de comics pourraient faire leur apparition. Mais je n'en dis pas plus, il ne faut surtout pas spoiler un Marvel. En tout cas, sachez que le long-métrage marque surtout le retour de Sam Raimi à la réalisation d'un film de super-héros 15 ans après Spider-Man 3 avec Tobey Maguire. Une chose est sûre, c'est qu'on va entendre parler de ce film longtemps. Et d'ailleurs, le film faisait déjà parler de lui avant même sa sortie, puisqu'il a été interdit dans 3 pays, en Égypte, au Koweït et en Arabie Saoudite. C'est l'arrivée d'une héroïne lesbienne qui pose problème.
Et puis Laurie, Charlotte Gainsbourg nous replonge dans les années 80 cette semaine.
Oui, et puis avec Charlotte Gainsbourg, c'est toujours une promesse d'un joli rendez-vous. On la retrouve à l'affiche des Passagers de la nuit de Michael Herz, aux côtés d'Emmanuel Béart ou encore Noé Habitat. Le film nous replonge effectivement dans le Paris des années 80. Charlotte Gainsbourg joue Elisabeth, une femme perdue qui vient d'être quittée par son mari et qui doit assurer le quotidien de ses deux adolescents. Elle va trouver un emploi dans une émission de radio de nuit où Emmanuel Béart joue l'animatrice et elle va faire la connaissance de Talula, une jeune fille désœuvrée qu'elle prend sous son aile.
Ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse. Quel est votre prénom ?
Talula.
Tu peux pas rester là comme ça. Tu vas venir à la maison.
Elle me touche, moi, cette gamine.
Et si tu n'existais pas ?
Tu ressembles à un petit oiseau, tu l'as jamais dit ?
Je vois pas du tout comment ma mère peut connaître ce genre de nana.
Et nous n'étions jamais les mêmes. Ces inconnus magnifiques, ces passagers de la nuit.
Et si tu n'existes pas,
Pour les nostalgiques des années 80, c'est le film parfait. Le style vestimentaire, les décors, les coupes de cheveux, bon, tout nous rappelle les années 80. Mais au-delà de l'époque, c'est un film plein de charme. Déjà, ça fait plaisir de revoir Emmanuelle Béart dans le rôle de Wanda, l'animatrice de radio de nuit à la voix rauque. Et puis, c'est aussi un film très tendre. C'est une chronique de vie, la relation entre Charlotte Gainsbourg et celle qui joue Tallulah, Noé Habitat, est absolument merveilleuse. Écoutez d'ailleurs Noé nous parler de sa rencontre avec Charlotte Gainsbourg.
J'étais très impressionnée, évidemment, et très heureuse de savoir que j'allais travailler avec elle. C'est une actrice que j'admirais déjà beaucoup son travail avant. Elle est tellement douce et tellement généreuse, puis tellement élégante. Et puis je sais que voilà, j'ai pu jouer comme j'ai joué grâce à elle aussi. Quoi. C'était vraiment un travail d'équipe.
Voilà, donc ça s'appelle Les Passagers de la Nuit et ça sort aujourd'hui.
Merci Laurie, à la semaine prochaine.
Europe Matin, Fanny Marceau.
5h58, dans un instant, la météo d'Anissa Haddadi, le journal et ce chiffre effarant, 35, le nombre de victimes de féminicides depuis le 1er janvier dernier. Ce week-end, une mère de famille de 36 ans a été poignardée chez elle alors que ses enfants étaient à la maison. Son mari a été placé en garde à vue. Comment lutter efficacement contre les violences conjugales? On en parle à 6h10 avec Maître Emmanuel Franck, ténor du barreau de Toulouse. Et juste après, on va souffler la partition d'Omblin avec la thérapie Foo Fighters. C'est le projet qui a remis l'ancien batteur de Nirvana, Dave Grohl, sur les rails après la mort de Kurt Cobain. La partition des Foo Fighters, c'est dans 20 minutes.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert. Toutes les infos sur murprotec.fr.
Anissa, on va faire attention aux grisailles ce matin.
Oui, prudence si vous êtes déjà sur les routes. Le long des côtes de la Manche, on a pas mal de brouillard ce matin. Beaucoup de nuages bas aussi entre les Bouches-du-Rhône et le Var au bord de la Méditerranée. Ces entrées maritimes vont se dissiper rapidement, je vous rassure. Et c'est le soleil qui va l'emporter au bord de la Méditerranée. C'est là que la journée sera la plus belle. Comme ça, au moins, ça résume bien ce qui va se passer ailleurs. On a un temps très instable et très variable entre le sud-ouest et le nord-est avec des averses ce matin qui deviendront quand même un petit peu plus fréquentes et surtout orageuses cet après-midi. Alors les orages concernent les montagnes, le massif central, le Jura, les Vosges, les Alpes, des orages qui seront localement forts, accompagnés parfois même de grêles. Et puis à l'ouest, le long de la façade atlantique, on a un temps qui est quand même plus calme mais toujours variable, c'est-à-dire qu'on n'a jamais un franc et beau soleil. Entre la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine, on va avoir des passages nuageux qui se partagent le ciel avec des éclaircies. Ce matin, on a 4 degrés à Amiens, 8 à Brive-et-Metz, 9 pour Paris, 14 déjà à Nice, il va faire doux. Et cet après-midi, 16 à Saint-Brieuc, 19 à Paris et Dijon, 21 degrés pour Limoges et Besançon et 25 en Avignon.
Merci Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon début de journée à tous. Nous sommes le mercredi 4 mai. Il est 6h. Slogan contre slogan, pro contre anti-avortement. Aux États-Unis, des milliers de manifestants dans les rues après les révélations sur les projets de la Cour suprême. La juridiction envisage de supprimer le droit à l'IVG dans le pays. Reportage dans le cortège de New York dans un instant. À 39 jours des législatives, des négociations éprouvantes à gauche, comme dans la majorité. LREM doit publier une première liste de candidats aujourd'hui. Le défi, unir toutes les composantes de la Macronie. Et puis un manuscrit inédit de Louis-Ferdinand Céline va être publié ce mercredi. Un texte volé en 1945 qu'on pensait perdu à tout jamais jusqu'à sa réapparition l'été dernier. Un mystère raconté par Nicolas Carreau à la fin du journal.
Europe Matin,
Fanny Marceau.
Le journal de 6h, Romane Hoquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. C'est une fuite inédite qui inonde tout le pays. Pro et anti-avortement manifestent aux États-Unis après les révélations du site Politico. La Cour suprême américaine envisage de supprimer l'arrêt qui protège le droit à l'IVG pour toutes les femmes américaines.
Chacun des États pourrait alors décider de sa propre législation. Hasard du calendrier, l'Oklahoma a d'ailleurs signé hier l'une des lois les plus strictes du pays.
Oui, le texte interdit l'avortement après 6 semaines, y compris en cas de viol et d'inceste. Un chemin que pourrait prendre la moitié des États américains, symbole de la fracture entre républicains et démocrates. Rupture consommée aussi dans la rue où des milliers de personnes se sont rassemblées hier. Washington, Boston, Los Angeles, Seattle et New York. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Alexis Guilleux.
Du vert partout devant les bâtiments fédéraux de Manhattan, la couleur du droit à l'avortement brandi par plusieurs générations de femmes. Victoria a 20 ans, elle est effrayée par la décision à venir de la Cour suprême.
Je me sens blessée. Hier soir, j'ai pleuré en apprenant la nouvelle. J'ai eu peur. Je suis profondément déçue par la Cour suprême. Elle essaie de nous priver d'un droit que nous avons depuis 50 ans.
Fran se souvient de la mobilisation pour le droit à l'avortement il y a un demi-siècle. À 79 ans, cette militante féministe admire aujourd'hui la mobilisation de la jeunesse.
Je suis vraiment ravie de voir à quel point ces jeunes femmes sont en colère. Elles ont raison de l'être. Aujourd'hui, il faut être partout. On doit répondre aux juges de la manière la plus forte possible.
Venir ici était une évidence pour Jessica. Elle vit à New York, mais connaît bien l'autre Amérique. Elle a grandi au Texas, état religieux et ultra-conservateur. Les années à venir l'inquiètent terriblement.
C'est la première attaque contre le 14e amendement. D'autres sont à venir. On peut s'attendre à ce que les droits des personnes LGBT soient démantelés.
Alors que l'avortement est encore soutenu par les deux tiers de la population américaine, sous les gratte-ciels new-yorkais, toutes promettent de poursuivre la mobilisation. New York, Alexis Guilleux, Europe 1.
Une mobilisation aussi encouragée par Joe Biden, le président américain, pour qui, je cite, toute une série d'autres droits pourraient être menacés, la contraception ou le mariage homosexuel. Joe Biden en a profité pour défendre le camp démocrate à l'approche des élections législatives à l'automne.
Le président américain a l'offensive aussi sur la guerre contre la Russie.
Oui, hier, Joe Biden a demandé au Congrès de débloquer rapidement l'enveloppe colossale dédiée à l'armement de l'Ukraine, 33 milliards de dollars. Le président américain a pris la parole dans une usine de missiles de l'Alabama au sud du pays.
Vous permettez aux Ukrainiens de se défendre et très franchement, ils ridiculisent l'armée russe dans de nombreux cas. Si les soldats de l'Ukraine ont pu continuer à se battre et faire de cette guerre un échec stratégique pour la Russie, c'est en grande partie parce que les États-Unis, ainsi que nos alliés et nos partenaires, les ont soutenus. Cet argent est un investissement direct dans la défense de la liberté et de la démocratie. Parce que si vous ne tenez pas tête aux dictateurs, l'histoire nous a montré qu'ils ne s'arrêtent pas. Leur appétit de pouvoir continue de croître. Comme je l'ai dit dès le début, ce combat coûte cher, mais céder à l'agression serait encore pire.
Voilà, les livraisons d'armes, l'un des points sensibles abordés aussi hier entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont échangé pendant plus de deux heures au téléphone. Paris a demandé aussi l'évacuation des civils de Mariupol, où Moscou vient de lancer pour la première fois un assaut avec chars et infanterie.
À 6h04 sur Europe 1, pas de fumée rose au-dessus du siège de la France insoumise.
PS et LFI se sont quittés il y a plus d'une heure. Selon nos informations, un compromis a été trouvé sur le programme pour les élections législatives. C'est désormais la répartition des circonscriptions qui coince, notamment à Lille, Paris et en Occitanie, des bastions socialistes. Un communiqué doit être publié dans la matinée. Les communistes qui ont déjà dit oui aux insoumis, une alliance de la gauche qui inquiète les autres partis politiques, LREM, espère aussi trouver un accord entre tous les alliés de la majorité. Une première liste de candidats doit être dévoilée aujourd'hui, validée par le chef d'État lui-même. Pour connaître en revanche les 577 noms, il faudra attendre au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Dans la Macronie aussi, les négociations sont visiblement douloureuses. Arthur Delaborde.
C'est un véritable bras de fer qui oppose les différentes chapelles de la majorité. Les tractations portent essentiellement sur le nombre de circonscriptions gagnables. Aux côtés de La République En Marche et du Modem, des formations comme Agir ou Territoires de Progrès veulent évidemment faire élire un maximum de députés. Mais les discussions coincent surtout avec le parti Horizon d'Édouard Philippe, même si officiellement tout se passe bien selon l'ancien Premier ministre.
Aujourd'hui, nous discutons avec nos partenaires pour faire en sorte de construire la majorité la plus stable, la plus solide, la plus utile. J'ai bon espoir d'arriver rapidement à un bon accord.
Seulement voilà, Édouard Philippe et Emmanuel Macron n'ont pas du tout la même vision de ce qui serait un bon accord. Le chef de l'État trouve l'ancien locataire de Matignon trop gourmand et lui reproche de penser déjà à la présidentielle de 2027. En raison de la complexité de ces négociations en cours, la liste des candidats investis par la majorité se fera donc en plusieurs vagues. Selon nos informations, la première, comprenant au moins 150 noms, devrait être rendue publique aujourd'hui ou au plus tard demain. Et malgré les tensions, une journée réunissant l'ensemble des candidats investis aura lieu mardi prochain en région parisienne.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Europe 1 qui vous propose une émission spéciale samedi pour la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Une cérémonie justement sobre, promet la présidence, organisée à 11h dans la salle des fêtes de l'Élysée. Comment justifier l'agression d'un pompier? C'est à cette question que devra répondre une manifestante du 1er mai, jugée en comparution immédiate ce mercredi. Cette femme de 38 ans avait frappé le casque d'un pompier qui essayait d'éteindre une barricade en flammes dimanche à Paris. Elle risque 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Il est 6h07 sur Europe 1. Ils ont été conservés dans le plus grand secret pendant 80 ans. Les derniers manuscrits de Louis-Ferdinand Céline vont être publiés.
Le premier d'entre eux s'appelle « Guerre » et il sort demain chez Gallimard. Ces textes volés en 1945 ont été retrouvés l'été dernier, même si l'histoire de leur réapparition reste finalement un mystère. Le récit de Nicolas Caro.
Ce roman inédit de Céline n'est pas un fond de tiroir, un de ces fragments de textes oubliés que l'on édite pour le principe. « Guerre » fait partie des manuscrits volés chez Céline à la Libération. À ce moment-là, l'écrivain a fui Paris et la France pour échapper aux représailles que pourraient lui valoir ses écrits antisémites. Il est à Sigmaringen. Bien sûr, il n'a pas pu emporter avec lui ses romans encore non édités. Il ne les retrouvera jamais. Son appartement a été visité et ses textes volés. D'ailleurs, il s'en plaindra toute sa vie. L'été dernier, un journaliste révèle qu'en fait, il détenait les textes depuis plusieurs années. Il y en aura d'autres, mais voilà Guerre, un roman bref, 160 pages, beaucoup plus court, mais à la hauteur de Voyage au bout de la nuit, ou Mort à crédit selon les spécialistes. Un style cru en tout cas, direct, truffé d'argot, célinien en diable, l'histoire de Ferdinand blessé pendant la Première Guerre mondiale. Il y mêle fiction et souvenirs de cet abattoir international, comme il l'écrit. Le roman est déjà en tête des classements de vente en ligne. Gallimard en a tiré 80 000 exemplaires pour l'instant.
Nicolas Caro, spécialiste littérature d'Europe 1. Fanny, cet extrait, vous devez reconnaître.
Tout à fait.
Alors, si comme Maître Yoda, je parle, bon, j'arrête. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale Star Wars. Alors, pourquoi me direz-vous, que la force soit avec toi. Tout le monde connaît cette
tout
phrase.
Fait.
La traduction en anglais, c'est « May the force be with you ». May, comme le mois de mai, force, comme 4. 4 mai, donc CQFD. Voilà, vous pourrez frimer à la machine à café
et
ce
souhaiter
matin.
Une bonne Star Wars Day à tous.
À tout le monde, voilà.
Merci beaucoup, Romain Oquet, pour le journal. On passe au sport.
Journal des sports avec Johan Tritz. Johan, la Ligue des Champions pour commencer et la 10e finale de son histoire pour Liverpool.
Oui, les Reds longtemps malmenés en demi-finale retour hier et menés 2-0 à la mi-temps. Ils ont finalement renversé le match pour s'imposer 3-2. Les Français Étienne Capoue et Francis Coquelin ont été décisifs pour le club espagnol dans cette rencontre, mais c'est bien un autre tricolore, Ibrahima Konaté, toujours invaincu avec Liverpool, qui jouera la finale au Stade de France le 28 mai prochain.
C'est vrai que première mi-temps, quand on perdait 2-0, je me suis dit « Ah non, faut pas qu'on perde, sinon je vais mes stats personnels, elles vont chuter. » Maintenant, on a su revenir et c'est le travail d'équipe maintenant, mais je suis plus content pour l'équipe que pour mes statistiques personnelles.
L'autre demi-finale, c'est ce soir entre le Real Madrid de Karim Benzema et Manchester City, les Anglais qui l'avaient emporté 4-3 à l'aller.
La Coupe d'Europe toujours, mais cette fois-ci en basket avec Monaco qui va devoir sortir un exploit.
Oui, le club du Rocher qui est en quart de finale d'Euroleague face à l'Olympiakos ce soir. De partout pour l'instant, le match 5, c'est donc ce soir 20h30 dans la chaude ambiance de la salle grecque. Le vainqueur rejoindra le Final Four. Les pronostics ne sont vraiment pas en faveur de la Roca Team avant la rencontre, car jamais mais en Coupe d'Europe, un club n'a gagné ce fameux match 5 à l'extérieur. Mais le capitaine de l'équipe, Léo Westermann, veut y croire.
On est bon pour ce genre de choses, pour les premières. On a fait pas mal de premières cette année, en espérant en faire une autre. C'est permis le droit d'avoir un cinquième match en quart de finale d'Euroleague, bien sûr. Là, tous les matchs sont magnifiques. Voilà, encore un match super important pour le club.
Propos recueillis par Frédéric Elion. Si Monaco se qualifie, ce serait une première pour un club du championnat français depuis 1997.
Pour lui, c'est du jamais vu. Gaël Monfils qui a perdu une 18e fois face à Novak Djokovic.
Oui, une défaite sèche en 2-7, 6-3, 6-2 au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid. 18 défaites donc pour le Français face au Serbe pour 0 victoire. C'est tout simplement un record dans le tennis. Gaël Monfils qui s'en est moqué sur Twitter, on va essayer de ne pas prendre Fanny au ping-pong, c'est-à-dire perdre 21-0. On ne l'espère pas non plus pour lui. Dernier tricolore en lice, Lucas Pouille joue ce soir face au numéro 5 mondial, le grec Stefanos Tsitsipas.
Merci beaucoup Johan Tritz pour le journal des sports. Restez avec nous, dans un instant on essaiera de comprendre pourquoi 35 femmes sont déjà mortes sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon depuis le début de l'année. Maître Emmanuel Franck, avocate pénaliste à Toulouse, est notre invité. À tout de suite.
Fanny Marceau,
votre matinale info sur Europe 1.
Il est 6h13, bon début de matinée sur Europe 1. Au moins 30 35 féminicides depuis le début de l'année et nous ne sommes que le 4 mai. Les violences conjugales, l'une des grandes causes nationales du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et pourtant, des femmes meurent toujours sous les coups de leur conjoint. La dernière, a priori, puisque l'enquête suit son cours, une femme poignardée à Vaux-en-Velin, près de Lyon, ce week-end, alors que ses enfants étaient à la maison. Bonjour maître Emmanuel Franck.
Bonjour.
Vous êtes avocate pénaliste à Toulouse, avocate notamment de Cédric Jubilard, mis en examen pour le meurtre de son épouse Delphine. Ce matin, ce n'est pas l'affaire précisément de Cédric Jubilard qui nous intéresse et qui nous occupe, mais la façon dont la justice, dont la France, traite et lutte contre les féminicides. 113 femmes ont été tuées par leur mari, compagnon ou ex-compagnon l'an dernier, alors qu'on alerte sans cesse sur ces violences. Pourquoi, selon vous, le problème persiste-t-il ?
Je crois que c'est un problème qui persiste parce que le traitement qui en est fait est à la fois bon mais inefficace sur le long terme. Je m'explique. Nous sommes sur une délinquance, que ce soit des violences conjugales ou des féminicides, nous sommes sur une délinquance qui a par définition, par nature, des ressorts qui sont d'un ordre psychologique. On n'est pas en matière de vol ou d'escroquerie, on est sur des qualifications pénales qui, à l'évidence, expliquent chez leur auteur une difficulté qui est d'ordre psychologique et qui nécessite du soin. Or, la justice française a des réponses qui sont des réponses efficaces, mais qui sont des réponses de court terme. J'entends par là la prison, l'enfermement, j'entends par là les ordonnances de protection que peuvent délivrer des juges aux affaires familiales, ou encore le bracelet anti-rapprochement qui a été étendu en fin d'année de 2021. Ce sont des solutions qui sont très efficaces, mais qui sont limitées dans le temps. Un bracelet anti-rapprochement est limité pour une durée maximum de 6 mois, renouvelable dans des conditions extrêmement spécifiques. Les ordonnances de protection, c'est pareil, c'est 6 mois. Quant à l'emprisonnement, eh bien, c'est le temps de l'emprisonnement. Et au final, quand la personne ressort de détention, eh bien, le problème n'est pas réglé et la prévention de la récidive n'est pas assurée. Donc on a en France un dispositif qui est bon, mais qui est un dispositif d'urgence et de court terme. Ce qu'il faut et qui existe, ce sont des obligations de soins imposées à ces personnes-là. Et là, on se heurte à un problème de moyens de la justice, puisqu'en réalité, ces obligations de soins, lorsque un individu y est contraint, eh bien, vont mettre des mois et des mois à être mises en place, parce que les services pénitentiaires d'insertion et de probation, eh bien, n'ont pas suffisamment de moyens pour les mettre en place rapidement. Et puis, deuxième difficulté aussi, même s'il commence à y avoir des associations qui œuvrent en ce sens, lorsque le soin est ordonné et est enfin effectué, eh bien, ce sont des obligations qui ne sont pas des obligations de soins spécifiques. C'est-à-dire qu'il va suffire pour un individu de justifier devant le juge d'application des peines qu'il a vu une fois ou deux fois par mois un psychiatre, quelle que soit, la nature du soin, quel que soit ce qu'il dit à son psychiatre, il va juste falloir qu'il fournisse une attestation pour dire « c'est bon, j'ai vu un psychiatre le mois dernier, donc je respecte mon obligation ». Et donc on n'a pas de spécificité du soin, outre le fait, comme je vous le disais, que ce soin est mis en place de manière extrêmement tardive par défaut de moyens.
En Espagne ou au Canada, par exemple, on a créé des tribunaux spécialisés. C'est possible, ça, en France, qui serait peut-être plus en capacité de mieux juger, même au-delà de la problématique de la peine et de l'accompagnement ?
Alors, je ne sais pas il faut des tribunaux spécifiques. Ça aurait peut-être l'avantage de traiter plus rapidement ce type de dossier, puisque si vous avez des juridictions spécifiques, eh bien, elles ne traitent que de ce type d'infraction et donc forcément la réponse pénale va plus vite. Je crois que c'est surtout un manque de moyens dans le soin et une optique qui n'est peut-être pas une optique de prévention de la récidive, mais plutôt une optique de l'immédiateté. Dans l'immédiateté, on va geler une situation, faire en sorte que la personne soit éloignée de sa victime, mais la difficulté c'est que ça n'a qu'un temps, et les victimes de violences conjugales le savent, elles sont soulagées quand un bracelet anti-rapprochement est mis en place, mais elles ont immédiatement peur de l'après anti-rapprochement, et elles savent très bien que cet après, il est en réalité très rapide.
Ça c'est pour la prévention, quand la victime peut encore porter plainte, mais alors qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont déjà passés à l'acte, les auteurs de féminicide ?
Alors, les auteurs de féminicide, on constate quand même globalement qu'il y a eu des prémices, c'est-à-dire qu'il y a eu des passages souvent, hein, évidemment pas toujours, mais des passages à l'acte antérieurs sous forme de violence. On a souvent avant un féminicide, et d'ailleurs ça défraie un peu l'actualité, parce que souvent les personnes se sont déjà fait connaître de la justice pour des faits de violence. Donc on est véritablement justement dans la prévention de la récidive. C'est-à-dire que ce sont des comportements dont la justice a eu connaissance, et non pas qu'elle a laissé défilé. Je ne parle pas de laxisme, moi, de la justice. Je parle de manque de vision sur le long terme et surtout de manque de moyens pour une prise en charge psychologique des auteurs. Et on sait bien qu'on est sur ce terrain-là, sur le terrain psychologique.
Vous parlez de manque de moyens. L'été dernier, le ministre de l'Intérieur annonçait que la lutte contre les violences conjugales devait être la priorité numéro un des policiers. On nous a annoncé des formations de policiers pour une meilleure prise en charge des plaintes et la présence d'un policier spécialisé par commissariat. Vous constatez, vous, une différence depuis l'année dernière ?
Alors très objectivement, non. Alors oui et non. C'est-à-dire que lorsqu'une femme maintenant va déposer plainte dans un commissariat pour des faits de violence, là où peut-être avant elle pouvait être traitée de façon équivalente à une victime de n'importe quelle autre infraction, là il y a effectivement un dispositif de prise en charge de la victime au sein des commissariats que nous ressentons. Par contre, en termes de réponse pénale, c'est toute la difficulté, c'est qu'en termes de réponse pénale, nous ne voyons pas d'amélioration particulière. Je sais que les bracelets anti-rapprochement ont été extrêmement étendus en fin d'année dernière, y compris aux condamnations antérieures à 2020. Très honnêtement, sur la juridiction toulousaine, nous n'en voyons pas souvent des bracelets anti-rapprochement.
Il y a encore beaucoup à faire. Merci, Maître Emmanuel Franck, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée à vous et bon courage.
Europe Matin,
Fanny Marceau.
Il est 6h20, les principaux titres de ce jeudi avec Alban Le Prince.
Manifestation en cascade à Washington, New York, Boston ou encore Los Angeles aux États-Unis pour défendre le droit à l'avortement menacé par la Cour suprême selon les révélations du journal Politico. Conséquence, Joe Biden, le président américain qui se dit très inquiet, appelle les Américains à choisir les candidats favorables à l'IVG lors des législatives de l'automne. Les législatives au cœur de l'actualité, ici en France, on ne sait toujours pas ce matin si le PS fera partie de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. Hier, elle s'est renforcée puisque les communistes ont annoncé la rejoindre. On termine avec du foot. Demi-finale retour de la Ligue des Champions. Hier soir, Liverpool s'est qualifié pour la finale en battant Villarreal 3-2. Ce soir, le Real Madrid reçoit Manchester City. Coup d'envoi à 21h.
Vous avez reconnu la musique, c'est la partition d'Omblyne. Bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Après le décès le 25 mars dernier du batteur Taylor Hawkins, les Foo Fighters ont annulé tous les concerts et la tournée mondiale. Un nouveau drame dans la vie et la carrière du leader des Foo Fighters, Dave Grohl, connu pour avoir été jusqu'en 1995 le batteur de Nirvana.
Et après le suicide de Kurt Cobain, Dave Grohl sentait qu'il avait encore des choses à dire. À propos de Nirvana, Dave Grohl expliquait dans le magazine Rolling Stone « Je vois ça comme être allé sur la Lune, puis en être revenu. Le succès avec les Foo Fighters va être plus graduel, plus raisonnable. » Juste après Nirvana en 1994, Dave Grohl s'enferme chez lui et enregistre, dit-il, des trucs dans son salon. C'est sa thérapie pour trouver la force de continuer à jouer. Dave Grohl se relève et il est surtout déterminé à travailler seul. Il se sent libre d'expérimenter de nouvelles choses, de se mettre devant un micro, une guitare entre les mains. Il a besoin de ça pour survivre.
Mais alors pour le moment, les Foo Fighters, en tout cas Foo Fighters tout seul, est donc un projet, le projet d'un seul homme.
Voilà, il veut sortir un album sans titre, sans photo, avec juste le nom Foo Fighters pour faire croire que c'est le disque d'un groupe. Dave Grohl entre en studio en octobre 1994 à Shoreline, dans l'état de Washington, au nord de Seattle. Vous voyez ça comme un symbole de résilience. C'est là où Nirvana avait tenu sa dernière session d'enregistrement en début d'année. Dave Grohl joue de tous les instruments et se montre capable de créer une chanson entière en 40 minutes. Seul problème, le chant. Sa voix est quadruplée en studio sur certains segments, comme un chœur, afin d'amener plus de puissance. Une centaine de copies de ce premier essai solo est mise en circulation tout de suite, distribuée à des amis. Et ce nouveau projet de Dave Grohl suscite l'intérêt. Il finit par se décider à recruter des musiciens. Il pense enrôler le bassiste Chris Novoselic, orphelin comme lui depuis la disparition de Kurt Cobain. Mais ce serait fabriquer un sous-Nirvana. Les Foo Fighters sont quatre désormais. L'album sort en juillet 1995. Il est défendu en live, dans la foulée. Très vite, le groupe confirme l'essai. Tous ensemble, cette fois, le deuxième album, The Color and the Shape, sort en 1997. Et il installe durablement les Foo Fighters sur la scène rock américaine. Morceau emblématique des Foo Fighters, c'était Everlong. Le groupe de Dave Grohl a annulé sa tournée mondiale après la disparition tragique le 25 mars dernier de son batteur Taylor Hawkins. Il avait 50 ans.
Merci Amblin. On se retrouve demain pour une nouvelle partition. Restez avec nous sur Europe 1. La matinale se poursuit dans un instant avec Pierre de Villeneuve.